RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, ça se passe sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Aujourd'hui, les grandes gueules, Barbara Lefebvre, l'enseignante, Abel Boyer, l'éducateur, et Jean-Philippe Cartier qui est avec nous, chef d'entreprise, investisseur, fondateur du mouvement Le Pouvoir de l'Action. On attaque la deuxième heure des GG, on va reparler du scandale Liana, du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est le coût du travail aujourd'hui qui plombe les Français? Parce qu'on commence à entendre, là, pour la prochaine présidentielle, il faudra mettre au cœur de la campagne le brut, le net, savoir comment on peut les rapprocher. C'est ce qu'a dit Patrick Martin d'ailleurs ce matin, ouais. le patron du MEDEF. Donc on en parlera à 10h20. Et du coup, il faut peut-être prendre conscience aussi qu'en France, je sais pas, il faut un peu moins de social et plus de pouvoir d'achat. Et après, chacun fait ce qu'il veut de ce qu'on lui redonne comme pouvoir d'achat. On en parlera tout à l'heure à 10h20. À 10h40, à 11h20, à la rentrée prochaine, il y aura une heure de cours par semaine sur l'intelligence artificielle au lycée. Est-ce qu'on en a besoin d'apprendre l'IA au lycée, oui ou non? Vous venez en discuter avec les GG. Voilà nos trois sujets, le 32-16 est à votre disposition. Commençons par l'affaire Liana. C'est terrible en fait, en énonçant, de dire « commençons par l'affaire Liana ». Non, c'est la mort d'une petite fille, c'est un drame absolu, c'est un meurtre, un assassinat, on verra comment l'enquête se développe, on connaît les résultats de l'autopsie, mais on n'a pas encore les circonstances de la mort de la jeune fille. Le gouvernement avait promis un rapport d'enquête, on l'a, avec cette fois-ci les premières sanctions contre une magistrate et deux gendarmes du Gers, ça a été rendu public, l'urgence n'a pas été prise en compte, c'est ce que dit le rapport. En fait, c'est l'urgence dans le traitement de la plainte de la maman de Rosa qui aurait dû permettre l'interpellation, le placement en garde à vue de Jérôme Barella. L'enfant, Rosa, certificat à l'appui, parlait d'une cinquantaine de viols. La plainte n'a pas été traitée comme une procédure prioritaire. Le caractère sensible de la procédure n'a pas été relayé. La procédure n'a pas été orientée vers le bon service de gendarmerie. Ça a été un courrier papier et on n'a pas mis dossier urgent. On s'est même trompé dans la couleur du dossier. Laurent Nunez a demandé la mutation d'office du directeur d'enquête et du commandant de compagnie de Condon et qu'il soit placé dans des emplois hors service de la police judiciaire. Et Gérald Darmanin lui va engager des sanctions, je cite, à hauteur des défaillances graves constatées pour le substitut du parquet d'Auch. Alors, est-ce que c'est une prise de confiance? Est-ce que c'est de conscience? Est-ce que ces sanctions nous rassurent? Oui ou non, vous venez en parler au 32-16, première sanction suffisante de bouc émissaire. Non, mais Abel Boyer, puisque c'est ton domaine d'activité,
je le rappelle. Faut qu'on arrête de se moquer de nous. Déjà, c'était même pas un rapport, ce n'était qu'une inspection de fonctionnement. On aura un épisode 2 début juillet et le rapport final ne viendra a priori que début septembre. Alors moi j'ai un souci déjà sur la manière dont ça a été fait, parce que ça a duré quoi, 10 minutes à tout casser. Ça a été un discours très technocratique, mortifère. On nous a sorti deux petits bonhommes gris, on avait l'impression d'avoir l'inspecteur Gdéric et son assistant Harry. Et moi ce qui m'embête par rapport à cela, c'est que les politiques sont encore une fois en train d'essayer de gagner du temps. Première chose, Darmanin il aurait dû démissionner. Ça ne veut pas dire que ça aurait amélioré la situation de la lutte contre la pédocriminalité, mais quand on n'est pas capable de montrer dans ce pays qu'on prend ses responsabilités, c'est comme s'il dit « je suis à la tête d'une structure, mais je ne suis pas responsable de la structure. Tu es chef d'entreprise, s'il se passe une dinguerie dans une de tes boîtes, c'est toi qui vas prendre et c'est tout à fait normal. » Donc Darmanin, il reste en poste parce que les voitures avec gyrophare et les chauffeurs, a priori, c'est trop bon. Et en réalité, les Français, c'est pas ça qu'ils attendent. On peut virer tel procureur, on peut virer tel gendarme, c'est pas ça. La question, c'est comment est-ce qu'on protège nos enfants et comment est-ce qu'on met une prévention pour la lutte contre la pédocriminalité.
Tu as vu, Gérald Darmanin a demandé à ce qu'on réexamine 70 000 dossiers.
Oui,
il a donné un délai, c'est-à-dire jusqu'au 14 juillet. Mm-hmm. Curieusement, dans le réexamen des 70 000 dossiers, 134 personnes viennent d'être placées en détention provisoire. Mm-hmm. D'un coup. Pour des faits de pédocriminalité, d'agression sexuelle ou d'accusation. Un coup, les procédures s'accélèrent. Donc là, on est dans la politique de la com et du bouc émissaire.
Mais c'est la com, mais c'est exactement, tu sais, comme quand quelqu'un est élu, il attend pas de
mais
voir.
Mais tu as été un des premiers aussi à demander à ce que s'il y a des agissements ou des erreurs individuelles, elles soient assumées et qu'elles soient sanctionnées. Mais, là, c'est plutôt ça.
Non,
qui
mais
se passe.
Là, on gère encore de l'urgence. Qu'est-ce que l'on fait en amont? D'accord, moi je veux bien, effectivement, là on va nous annoncer qu'il y a des gens qui vont être placés en détention provisoire. Sur le forum BFM, Darmanin a presque demandé à être applaudi parce que depuis 20 ans, c'est le seul ministre qui s'est excusé. Il a osé dire cet argument-là, fallait limite l'applaudir. Donc je suis désolé. quand tu es père ou mère d'un enfant qui s'est fait violer, pardon, ou quand toi-même tu as été victime de pédocriminalité, c'est pas ça que tu attends. Donc là, on est en train de gagner du temps et ça va rien changer. Il y a le projet de la loi intégrale. Qu'est-ce qu'on attend pour se poser dessus? Peut-être qu'il faut pas tout prendre, mais il faut réfléchir. Il y a les 82 préconisations de la Civise. Il y a les 82 préconisations de la Civise qui ont été mises de côté. Quand la Civise a été créée, Macron avait promis une chose. Il avait promis que les victimes seraient écoutées. Donc la promesse n'a pas été tenue. Il a placé le juge Durand et ça a été un petit peu embêtant parce que le juge Durand, il a vraiment travaillé. Ça n'était pas un emploi fictif. Il se fait virer et la Civise aujourd'hui est morte en réalité. Donc aujourd'hui, c'est comment on repense l'accueil de la parole de l'enfant et comment est-ce qu'on fait en sorte que la parole de l'enfant, un enfant ne peut pas inventer qu'il a été victime de pénétration, et je finis dessus, anale, buccale ou vaginale. Comment est-ce qu'on fait que la parole de l'enfant puisse faire office de preuve déjà, dès lors que celle-ci est jugée comme avérée?
Déjà, la parole de l'enfant, il faudrait aussi la recueillir dans des conditions adaptées à l'enfant. C'était pas normal qu'un enfant en France, quand il vient dénoncer des violences, il soit obligé de le répéter 10 fois,
exactement,
15 fois,
et
20
oui,
fois.
Et oui,
il y a des
oui,
pays où il y a une audition, de maximum, faite dans des conditions normales, avec filmé par des caméras, avec des gens qui savent poser les questions. On lui demande une fois de raconter, peut-être une ou deux fois après, on reprécise des questions au cours de la procédure, et encore. Mais en France, le gamin, parfois des petits-enfants de 4 ans, 5 ans.
Exactement.
Il faut qu'ils répètent l'intégralité à 25 personnes différentes. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui s'est passé avec certains du périscolaire. Des relax. Ah oui, c'est pas assez caractérisé. Bah oui, oui, un enfant de 4 ans.
Un enfant
de 4 ans, ou un enfant même de 10 ans, en l'occurrence celui qui s'était fait relaxer, hein, qui disait, oh, j'aimerais bien t'embrasser partout, etc. Moi, il n'est pas arrivé celui qui dit à ma fille de 10 ans ou même de 5 ans, j'ai envie de t'embrasser partout. Moi, j'attends, excusez-moi, hein, mais la justice, faut pas qu'elle le relaxe, hein, parce que j'ai envie de t'embrasser partout, il va voir. Moi, ça, je vais lui régler son compte.
L'intention sexuelle n'était pas caractérisée.
Voilà,
là, des attouchements.
En ce qui concerne le dossier Liana, puis après on écoute Jean-Philippe.
Mais le dossier Liana.
Et les sanctions qui ont été prises. Et le dysfonctionnement, parce que.
Oui, mais.
T'as vu ce qu'on a dit, c'était pas forcément une question de moyens, c'était plus de responsabilité individuelle et de traitement de manière individuelle
là,
de l'affaire et de la plainte.
Pour le coup, c'est vrai, sauf qu'il doit y en avoir d'autres, des dysfonctionnements. Il y a d'autres affaires Liana en attente, hélas. Hein, c'est ça qui m'inquiète. C'est que, bien sûr, tu dis des boucs émissaires. Un bouc émissaire, c'est quelqu'un qui est innocent et à qui on s'en prend. Eux deux, enfin, les deux gendarmes et le substitut, ils ont quand même fait des fautes professionnelles.
Oui.
Donc, ils ont une responsabilité qui n'est pas directe, puisque le seul qui a une responsabilité, c'est Jérôme Barella. Eux, ils ont des responsabilités indirectes, puisqu'ils n'ont pas fait le travail pour l'empêcher de passer à l'acte. 50 viols. Cette petite, la fille de Rosa a été violée 50 fois. Et ça, c'est pas assez urgent. Je vais vous dire, il y a des gens pour du délit d'opinion, ils passent plus de temps devant l'OPJ et devant un tribunal que n'en aura jamais passé Jérôme Barella, vu qu'il a jamais été vraiment auditionné. Mais vous en avez, on les arrête en deux temps, trois mouvements, vas-y, viens perdre 4 heures devant l'OPJ, et après, viens perdre 6 heures devant la 17e chambre correctionnelle pour raconter pourquoi tu penses ci, pourquoi tu penses ça. Là, aujourd'hui, il faut que l'État revienne dans ses fondamentaux, et une chose est fondamentale, je voudrais le dire ici. Il y a deux pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ils sont élus par les citoyens. Mmh. La justice n'est pas un pouvoir, la justice est une autorité. C'est une autorité. Et elle reçoit délégation des citoyens par l'intermédiaire de l'État. Donc, il faut que la justice arrête de se prendre pour un pouvoir. Les juges n'ont pas de pouvoir politique. Les juges sont une autorité et ils rendent la justice en notre nom. Donc, encore une fois, j'ai encore entendu Madame Stéphanie Bonhomme, la maman d'Elias, qui parle d'une façon avec tellement de vérité. Les juges doivent arrêter de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas là pour dire, pour nous faire la morale. Ils sont là pour rendre la justice, et la justice, ils la rendent pour les victimes et pour les citoyens. Et ils ne sont pas un pouvoir, parce que s'ils sont un pouvoir, dans ce cas-là, on fait à l'américaine, ils sont élus. Et donc, pour l'instant, oui, les juges sont intouchables, et Madame Stéphanie Bonhomme a raison maintenant de nommer les deux hauts magistrats qui empêchent d'aller jusqu'au bout de l'étude des dysfonctionnements concernant le meurtre d'Elias. Sur son fils.
Et donc très rapidement,
il faut continuer.
Juste très rapidement, parce qu'elle a soulevé un point important, la manière dont est recueillie la parole de l'enfant. Moi, j'ai eu le cas d'une maman, parce que j'accompagne beaucoup de cas dans mon rôle d'éducateur. Son fils de 8 ans a été violé. Et le gendarme a demandé à cet enfant, donc il a fallu répéter à plusieurs reprises le récit, et le gendarme a posé la question à cet enfant, est-ce que tu as des sentiments pour cet homme qui t'a sodomisé, un enfant de 8 ans? La maman, ça, mais mais ça la détruit quand elle me raconte ça au téléphone. Mais elle en a vomi. C'est vraiment terrible, en fait. Donc, il faut tout revoir. Toutes ces personnes qui vont sauter éventuellement, on s'en fout sur le terrain. Vraiment, on s'en fout royalement. C'est qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on accompagne les victimes? Et dernière chose, et promis, je te laisse parler. Quand Gérald Darmanin, à un moment, avait émis l'idée que tous les viols puissent être jugés en un jour seulement. Ce qui a fait une bronca, c'est-à-dire c'est s'asseoir sur la victimologie, c'est-à-dire l'accompagnement des victimes dans le processus judiciaire qui peut peut-être les aider à se sentir un petit peu, fortifié et accompagné. Il a quand même émis l'idée que l'on puisse s'asseoir sur ça. Je suis désolé, il aurait dû démissionner, ce monsieur. C'est inadmissible. Parce que ces personnes ne savent pas ce que c'est que psychologiquement accompagner une victime, voir une victime être détruite et voir un enfant qui a perdu son enfance parce que à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le bambin ou la bambine a été pénétrée analement, buccalement ou vaginalement. C'est ça le terrain. Et nous, sur le terrain, c'est ça qu'on est en train d'accompagner. C'est ça qu'on est en train de voir. Et on pleure avec les victimes. On pleure avec les parents de victimes. Et cette classe politique ne comprend rien. Je suis désolé. Donc, ils n'ont qu'à virer les magistrats, ils n'ont qu'à virer les procureurs. Et dernière chose, je me fais l'avocat du diable. Les premiers à dénoncer le fait que il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez d'argent. Ce sont les policiers eux-mêmes, quand même. Ce sont les gendarmes eux-mêmes et le personnel de justice. Ça fait 40 ans qu'ils gueulent aussi. Donc au bout d'un moment, qu'on arrête de se moquer des victimes et qu'on les prenne un peu
en considération.
En considération dans ce pays, c'est pas possible.
Jean-Philippe Cartier, que penses-tu de ce rapport et des premières mesures?
C'est le citoyen qui parle là, vraiment, avec toute l'émotion d'un sujet comme celui-ci. Mais c'est un sujet systémique. Enfin, c'est un problème systémique au fonctionnement de la France. On parle des enfants, la parole n'est pas écoutée. On parle des femmes, beaucoup.
Bien sûr.
Moi, je connais un cas personnel de quelqu'un qui m'a été proche, qui avait dénoncé 40 fois des violences faites, et la 40e fois, jusqu'à ce qu'il y ait un drame, elle est toujours vivante, mais qui est passée à ça de la catastrophe, qui est une amie de mon ex-femme. Enfin, c'est un sujet français, c'est une problématique. Si on pose les choses de manière encore plus concrète, il y a une enfant qui témoigne et qui déclare avoir été victime d'une cinquantaine de viols. Mmh. Il y a un homme qui est dans la rue.
Avec certificat médical.
Avec certificat médical. Je répète, sur le plateau d'une de vos chaînes confrères, j'ai écouté, vous l'avez peut-être vu ce forum, où un homme disait, ma fille a été violée, c'est prouvé, c'est certifié, on le sait, le criminel habite à 1 kilomètre de la maison et n'a toujours pas été ou entendu ou mis en garde à vue à date. Ma fille qui était première à l'école à 8 de moyenne, elle mange plus, elle dort plus et j'ose même plus sortir de chez moi. Non mais, soyons juste pragmatiques, on parle en tant que parent. Moi j'ai un enfant de 4 ans et un enfant de 11 ans et demi. Donc je peux vous dire que j'ai des AirTags partout, je suis paniqué, on est paniqué comme jamais. Et je veux pas tomber dans le catastrophisme, c'est dramatique. Je vais vous donner une autre anecdote, moi je viens du digital, j'ai monté une boîte que j'ai revendue il y a une vingtaine d'années dans le digital. J'avais un copain qui avait monté un site, qui était un site on va dire sexy, érotique, d'accord, qui marchait très bien à l'époque, qu'il a revendu depuis. Un jour il me raconte son entreprise et il me dit, si tu savais le nombre de gens qui se connectent sur des trucs absolument déviants sur des gamins, j'ai toutes les adresses IP de ces gens-là.
Exactement.
Je vous parle de ça, j'avais 25 ans, j'en ai 50. Non mais comment dans un pays comme ça, on ne peut pas se dire chaque personne dont l'adresse IP a été regardée, des images pédopornographiques, sont fichées, on les connaît, on les identifie, on leur envoie un email d'alerte. L'alerte, voilà, on sait que vous regardez ça, ok, on vous a chopé. J'en sais rien. Mais encore une fois, la réaction politique, c'est pas pour taper dessus. Mais c'est de la réaction à chaud, on a découvert deux, on punit trois personnes. Mais c'est devenu dramatique. La sanction n'existe plus, faut mieux être bourreau que victime, on le sait tous. Et des cas comme ça, il y en aura d'autres. Et je reprends encore l'exemple sur le forum, pardon. Je vois le ministre, le garde des Sceaux, qui parle à ce papa, qui est dévasté, vous avez dû le voir. Et le garde des Sceaux n'est pas capable de dire ce que nous, dirigeants, on dirait s'il y avait un cas, je sais pas, d'agression entre salariés, de mecs un peu trop pressants et tout. Ça peut nous arriver qu'une salariée nous dise, il y a Jean-Paul, là, il est un peu lourd et tout. On y va, on s'en occupe, on le traite, le sujet. Et on voit le garde des Sceaux qui est même pas foutu de dire, monsieur, on se parle juste après l'émission, on règle ce sujet demain matin, puisqu'il peut même plus parler au magistrat, le garde des Sceaux. On se dit, il y a même plus de pouvoir, il y a même plus d'autorité. Donc, juste pour finir ce point, et c'est encore une fois le papa qui parle, on marche sur la tête sur ces sujets-là. Et cette petite, des cas comme ça, il va y en avoir d'autres, et on le sait tous. Et sur les violences faites aux enfants, il faut redonner, vous le disiez à très juste titre, il faut redonner le pouvoir de la parole aux enfants. Il faut absolument les écouter et il faut traiter immédiatement. Il ne faut pas attendre et subir. Et c'est un énorme chantier.
Monsieur Darmanin n'aurait rien pu faire puisque depuis la loi de 2013, merci François Hollande, merci Christiane Taubira et tout ça, parce que
c'est Taubira,
tous ces gens qui n'ont pensé qu'à une chose, qui ont pensé aux bourreaux. C'est la, excusez-moi, mais c'est la pensée Badinter, c'est la pensée Michel Foucault. Hein. Ah, la prison, c'est pas bien la prison, la sanction, c'est pas bien. Tout le monde est récupérable. Non. Moi, je suis navrée. Il y a des gens, c'est pas récupérable. Voilà. Donc, et en plus, certainement pas récupérable avec l'argent du contribuable, parce que ça aussi ras-le-bol hein, de payer pour des gens qui, en réalité, ont commis des crimes abjects. Donc, Monsieur Darmanin, par ailleurs, n'aurait rien pu faire, puisque depuis cette loi de 2013, les procureurs ne sont pas seulement indépendants. Ils sont autonomes. Mais,
et cette impuissance, moi, cette impuissance m'a rendu dingue.
Voilà.
Que le garde des Sceaux ne soit pas capable de dire, donc, OK, sujet traité. Pardon, monsieur, on a compris, c'est traité demain à 9h du matin.
Non, mais
moi, ça me rend dingue.
Voilà,
c'est la loi Taubira.
Voilà une marge d'économie.
C'est
bah, fermons le ministère de la Justice parce qu'il sert à quoi, monsieur Darmanin? Il n'a pas d'autorité
bah,
sur les procureurs.
Vous avez raison.
Bah, il sert à rien.
Voilà.
Là, dans l'affaire de Elias. Mais normalement, le ministre de la Justice, doit donner des ordres à ces deux hauts magistrats qui bloquent tout et leur disent maintenant, vous laissez et vous rendez des comptes à cette famille ou vous dégagez. Il ne peut pas, ils sont autonomes, loi 2013. Qu'est-ce qu'il fait depuis 10 ans, monsieur Macron? Il peut pas la dégager,
bah,
la loi
oui.
2013.
Bah, oui.
Vous entendez des hommes et des femmes politiques candidats? Moi, j'aimerais bien entendre monsieur Philippe, qui a été ministre de Macron, monsieur Retailleau, ministre de Macron, nous expliquer comment ils vont remettre en question, par exemple, cette loi et remettre les procureurs à leur place. C'est-à-dire, liés au garde des Sceaux et à qui doivent aussi rendre des comptes.
Donc, on a une classe politique qui est pitoyable. Quand Madame Knafeau était là, je lui ai dit. Maintenant, ils sont tous experts en lutte contre la pédocriminalité. Ça fait des décennies que ce problème il existe. Ils n'en parlaient jamais. Les pré-campagnes présidentielles ont commencé, ils étaient tous sur le sujet de l'immigration à nouveau, parce que c'est ça qui est bankable, immigration, insécurité, islam, wow, tout le monde applaudit. Personne n'en parlait, il y a eu le drame de l'INA. Et le drame de la communication politique, et je vais finir dessus, c'est qu'on est en train de présenter le dossier l'INA, déjà comme si c'était un numéro de dossier, regardez, on en parle de plus en plus, comme si c'est un dossier, un numéro, et comme si, une fois qu'on aura réglé la question des dysfonctionnements inhérents à l'IANA, inhérents à Rosa, on aura fini avec ce problème. Je vous dis, moi j'aime la Coupe du Monde, c'est bien, mais on ne se laissera pas endormir par la Coupe du Monde. Faut que les politiques y soient vraiment prévenus dessus et on va leur casser les pieds,
mais
vraiment.
Excuse-moi,
parce que le sujet de la
pédocriminalité. Je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on n'en a pas parlé. Quand il y a eu le couple, là, l'infirmière et son taré, là, qui filmait des bébés dans les couveuses.
On avait reçu l'avocat.
Bon,
ici,
excuse-moi, ouais. Ils sont en sous contrôle judiciaire. Ces deux tarés ne sont même pas en prison. Je ne comprends même pas que cette femme.
C'est pas les politiques qui
homme...
en ont parlé. C'est pas les politiques qui parlent pas. C'est nous.
Mais,
pas.
C'est
nous. Mais oui, c'est les victimes qui parlent. C'est pas les politiques.
À l'heure où nous parlons, où est ce dingo? Où est ce taré? Il est en contrôle judiciaire. Et qui nous dit qu'il n'est pas dans une autre région de France où il passe discrétos, parce que contrôle judiciaire, tu vas signer au commissariat, hein, t'es tranquille. Hein. Qui vous dit qu'il ne commet pas d'autres actes? Ces gens-là, ils devraient être en prison. Lui et l'infirmière qui disait soi-disant j'étais sous emprise. Tu parles sous emprise, c'était une pervers pareil, parce que pour filmer des enfants dans des couveuses, moi, c'est deux-là.
Et moi, je les ai vus, les
vidéos. Mais encore une fois, c'est deux-là. Heureusement,
on avait reçu l'avocat d'une des familles.
Heureusement qu'ils ne sont pas tombés entre mes mains, si j'avais été parent.
Et à ça, vous pouvez rajouter, pardon, le périscolaire.
Non, mais
j'ai entendu une maman parler ce matin qui a compris pourquoi son enfant allait mal pendant 2 ans et demi, qu'avait les larmes aux yeux quand elle l'exprimait en disant on n'ose pas lui en parler, il faut, mais je pense que du coup on comprend pourquoi il n'était pas bien. Mais tu te dis t'as mis ton enfant à la crèche ou machin. Non mais c'est lunaire, à Paris, en France, en 2026. Enfin moi ça m'arrive, je fais un massacre.
Mais M. Grégoire a dit que si tu dis ça, il porte plainte au pénal.
L'IANA,
c'est pas la solution pour Paris, on le sait tous.
Est-ce que les premières sanctions sont suffisantes? Qu'est-ce que vous en dites, oui ou non? Puisque vous dites non, pas du tout, à 88%. Ouais. Dans un instant, on va revenir sur ce qu'a dit Patrick Martin, le patron du MEDEF. Il était invité de BFM TV, d'RMC ce matin. Et il a reparlé du pouvoir d'achat des Français et comment rapprocher le brut du net. Alors comment fait-on justement? On va en discuter, ça tombe bien. On a un chef d'entreprise et investisseur avec nous, Jean-Philippe Cartier. Il est avec Abel Bouilly, Barbara Lefebvre. Vous attend 32-16, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4.
La discussion continue, c'est avec les GG, avec les Grandes Gueules. Et vous savez que nous sommes ensemble jusqu'à midi aujourd'hui. Nous sommes avec Jean-Philippe Cartier, petit nouveau dans la bande des GG, chef d'entreprise, investisseur, fondateur du mouvement Le Pouvoir de l'Action. Abel Bouilly, l'éducateur et des nôtres, et Barbara Lefebvre, l'enseignante. On va parler de notre pouvoir d'achat, on va parler de nos salaires. Justement, est-ce qu'il faut faire pour essayer de rapprocher le brut du net? Parce qu'aujourd'hui, les salariés, c'est vrai que tous autant que nous sommes, quand on a notre fiche de paye et qu'on voit le nombre de prélèvements Et on, ce qui nous amène vers le net, on se dit quand même, quoi, avec des acronymes, on ne sait plus du tout ce que c'est. Mais Patrick Martin, le patron du MEDEF, il en parlait ce matin.
On a deux sujets, le niveau de la protection sociale et le financement de la protection sociale. Le financement de la protection sociale, c'est un cas unique au monde, repose beaucoup sur les entreprises et sur les salariés. Donc on a fait effectivement des propositions. On demande le transfert de 60 milliards de cotisations sociales, maladie et famille, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises et les salariés qui financent un système dit de solidarité. À la fin, le gain pour les entreprises serait de 16 milliards. C'est-à-dire que l'État économiserait 30 milliards sur les fameuses aides aux entreprises. Les salariés gagneraient 10 milliards. On pense qu'il ne faut pas toucher au taux de TVA réduit. C'est l'essentiel des achats alimentaires. Enfin, il n'y a pas de TVA sur les loyers.
Alors, c'est vrai, ça paraît un peu technique, mais et là, je me tourne vers le chef d'entreprise avec tous les salariés. Disent comment est-ce que moi, je peux gagner un peu de pouvoir d'achat ? Le problème, c'est les cotisations. Alors, est-ce qu'effectivement, comme le dit le patron des patrons, ce n'est pas aux salariés, ce n'est pas aux entreprises de payer la solidarité. Est-ce qu'il a raison ou pas ?
Alors, il a en grande partie raison, mais je vais surtout vous expliquer quelle est, moi, ma démarche personnelle. Le pouvoir de l'action, c'est une association, en fait, qui regroupe un certain nombre d'entrepreneurs, mais aussi de salariés impliqués, de tous les gens qui considèrent qu'il faut mettre le sujet du pouvoir d'achat absolument et des salaires sur la table pour 2027 et le sujet économique où nous on demande moins de normes, plus de liberté et surtout, moi mon combat numéro un, c'est comment on peut faire pour mieux payer les gens. Voilà, c'est ça mon combat absolu. On ne peut plus payer les gens comme on le souhaiterait en France à cause de ces coûts et de ces charges dont on a parlé. Et aujourd'hui, il y a deux sujets. C'est que en fait, les Français sont pas non plus complètement abrutis. Donc, ils ont compris qu'en travaillant parfois moins, ils pouvaient gagner peu ou prou la même chose qu'en travaillant. Donc, il faut impérativement monter les salaires et par contre, travailler déjà sur une forme de, notamment, nous, c'est ce qu'on propose sur les plus jeunes, où on explique que la CSG-RDS, qui est la contribution sociale généralisée, qui est un impôt qui était déjà censé rembourser la dette, qui a plus de 30 ans, d'accord, ne devrait pas peser sur les moins de 30 ans, par exemple. Et donc, leur enlever 10% pour qu'ils gagnent tout de suite 10% de salaire en plus. Mais en contrepartie, il faut une réduction de l'indemnité chômage. Donc, en gros, en clair, moi, je fais partie de ceux qui pense qu'il faut impérativement augmenter de près de 20% les salaires. Voilà, pour les salaires jusqu'à 3 à 4 000 euros. C'est une obligation. On le voit dans l'hôtellerie, on voit. Ça va de la femme de ménage au serveur, au manager. Dans tous les métiers, il manque. Tout le monde te dit qu'il manque à peu près 20%. Comment on fait ? Il n'y a pas 50 solutions. Il y a un sujet social fondamental sur la retraite. Il y a des efforts à faire. Si on n'avance pas sur le sujet de la retraite, on n'y arrivera jamais. Nous, on a fait des calculs qui démontrent par A plus B que sur la retraite par capitalisation, les gens seraient beaucoup plus riches en 25 ou 30 ans, si vous voulez bien le comprendre. Et donc, on a un travail, nous, entrepreneurs, aussi, à faire expliquer à nos collaborateurs et à nos salariés qu'un autre système est possible. Donc, nous, on pousse pour ça. Et je rejoins ce que dit Patrick Martin. Mais là où j'étais un peu en désaccord, c'est quand ils ont dit pour remettre les jeunes sur le marché du travail, pourrait peut-être des nouveaux systèmes qui permettraient les embaucher un tout petit peu moins cher. Je dis tout l'inverse, en fait. Je dis qu'il faut payer mieux les gens, mais par contre, faut les remettre plus vite au travail. Nous, dans nos métiers, on a trop de problématiques de recrutement. Ce n'est pas possible. On ne peut pas
mettre du salaire.
Mais pas forcément à cause du salaire, parce que je prends l'exemple souvent d'une hôtellerie haut de gamme saisonnière. Vous fermez le 15 octobre, vous avez des collaborateurs qui sont saisonniers, qui partent 4-5 mois, et vous n'arrivez pas à les récupérer le 15 mars, parce qu'ils peuvent encore en profiter jusqu'au 30 juin. Et ils ont 24 ans, 25 ans, 26 ans. Donc il faut remettre plus vite les jeunes qui ont deux bras et deux jambes et qui sont en pleine forme sur le marché du travail, protéger nos anciens, protéger nos jeunes faibles certainement, mais il faut plus vite remettre les gens sur le marché du travail, et il faut une baisse évidente et immédiate du coût du travail. Nous avons le coût du travail le plus cher du monde. Ça ne peut pas durer. Je prends souvent l'exemple d'un hôtel, je crois que vous connaissez, qui s'appelle le Macandille.
Oui, à Mougins.
Qui est à Mougins, que j'ai réouvert il y a 2 ans après énormément de travaux et qui fait la fierté française et qui recrute près de 90 personnes. Eh bien, aujourd'hui, je prends cet exemple. 3 200 000 euros de masse salariale chargée. C'est le coût sur une année pleine de fonctionnement de cet hôtel. 1 350 000 euros dans la poche des salariés à la fin. Voilà, vous avez l'équation, le drame français. On parle de tous les drames français, il y en a quand même pas mal. Ben, ce drame économique, et il doit absolument évoluer, mais c'est vraiment, encore une fois, je veux juste finir sur ce point. Le seul point, il y a tous les sujets des aides entreprises.
Oui, mais j'entends, ça, tout,
j'entends tout le monde. J'entends tout le monde s'agiter.
Moins de protection sociale.
Mais il faut faire un effort quelque part. Quand, encore une fois, il faut
lécher. Tu te fais pas
attendez,
avec
non,
ça.
Non, mais attendez. Sur les plus jeunes, Il faut de la liberté. Moi, on m'aurait dit, t'as moins de protection à ce niveau-là, 25 ou 26 ans, mais tu gagnes 4 ou 600 euros de plus, j'en ferai ce que je veux. Je le mets en bourse, je le mets de côté, je m'achète un début d'appartement,
voilà,
un loyer.
Si t'annonces moins de protection sociale, tu annonces aussi.
Il faut une liberté. Il faut, bien sûr, il faut mieux gagner sa vie et il faut laisser les gens libres de mieux la gagner et de choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur argent.
Excusez-moi. Oui, mais l'État-providence. Mais les Français, ils sont drogués aux mensonges de l'État-providence. L'État-providence, ça voulait dire quelque chose en 1945, oui, quand on a inventé la Sécu, quand on a reconstruit la République. Mais aujourd'hui, chacun des Français qui nous appelle ici, qui témoigne partout, témoigne dans tous les domaines de l'inefficacité absolue de ce système social qui est complètement dévoyé, c'est-à-dire qui n'aide pas les plus démunis et les plus précaires réels, mais qui va aider toute une série de gens qui pourraient se lever et aller bosser, ou toute une série de gens qui sont effectivement... qui vont gagner autant en étant à mi-temps qu'en étant en allant travailler. Donc je suis désolée, même quand on dit oui, mais revenir sur un certain nombre de droits sociaux, etc., ce serait nous rétrograder. Mais la France, c'est le pays au monde où il y a le plus de prélèvements sociaux, et c'est pourtant le pays où il y a toujours autant d'inégalités, notamment
et
à l'école.
Et un agrandissement total de la pauvreté.
Voilà.
On le voit avec nos salariés qui gagnent correctement leur vie, qui n'arrivent plus à se loger, qui n'arrivent plus à se payer une bagnole, qui n'arrivent plus à payer de l'essence. Enfin, on en parlera tout à l'heure. On le voit, c'est une violence en moins de 10 ans, c'est du jamais vu.
Quel est le résultat ? Un pays surendetté à cause du social, qui, pour autant, voit la pauvreté qui progresse, l'école qui n'arrive plus à régler les inégalités sociales, la fracture qui s'aggrave entre les plus riches et les plus pauvres, une petite partie des jeunes qui ne sont pas dans l'emploi, qui ne veulent pas être dans l'emploi, mais qui, à partir de 25 ans, peuvent toucher le RSA. Moi, je suis désolée, mais il n'y a pas de RSA avant, moi, si c'était que moi, pas avant 45 ans. Je veux dire, jusqu'à 45 ans, tu peux bosser. À la limite, à 45, ça peut être plus dur. Moi, il n'y a pas le RSA à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, mais tu n'as pas besoin d'aide. Tu vas bosser. Faut remettre en question tout ce qui est intermittence du spectacle. Alors, certes, hein, ça ne va pas faire des milliards, mais c'est une question de principe. Aujourd'hui, on voit l'échec de l'État-providence, de l'État-nounou, et on nous dit toujours plus, toujours plus, toujours plus. Non, toujours moins. Et je vais vous dire, Dieu sait s'il y a quelques années, j'étais pas une franche libérale, mais maintenant, moi, je suis désolée. Je pense qu'il va falloir être milléiste. Parce que sinon, on s'en sortira pas.
Ah, je vais donner un exemple. Je discutais avec un pote qui a une retoucherie. Avant, il embauchait 3 personnes, il n'en embauche plus qu'une aujourd'hui. Il me dit, il y a trop de charges, j'étouffe. Et il me prend l'exemple d'un de ses associés qui, lui, est en Allemagne, a une retoucherie, comme il y a moins de charges. Il me dit en plus, en France, tu payes tes charges et puis tu te débrouilles. En Allemagne, tu payes tes charges et on t'envoie un courrier presse pour te remercier d'avoir participé à l'économie. Donc,
on en est loin, là.
Voilà, c'est vraiment débrouille-toi. Tu parlais de la réforme des retraites aussi très rapidement. Moi, je pense que toujours le mensonge politique, faut arrêter de parler en termes 60 ans, 62, 64 ans. Déjà, on a un problème. Le premier métier stable en France, en moyenne, c'est 28, 29 ans quand on est à 23 ans en Allemagne. Donc, même avec un programme de retraite à 60 ans avec 40 annuité, tu commences à bosser à 29 ans, tu partiras jamais à 60 ans. Faut aller par une capitalisation.
Exactement.
Et tu personnalises en fait. Et même tu réduiras les inégalités sociales parce que la femme de ménage, la question de la pénibilité lui rapportera des bonus supplémentaires par rapport à la personne qui est en bureau, même si elle aura eu un salaire moins important. Mais ça, il faut pouvoir l'expliquer.
Pardon de te couper, mais sur la capitalisation... Moi, j'en ai parlé dans une affaire où il y a à peu près 80 salariés. On a passé 2-3 heures avec eux pour l'expliquer. On a fait un calcul. Je crois qu'ils avaient 7 à 800 000 euros de plus en partant au moment de la retraite à poste équivalent. C'est lunaire. Par contre, il faut le temps de leur expliquer. Et comme la parole politique n'est plus du tout écoutée, puisque je ne veux pas me tromper sur le chiffre, mais je crois qu'il y a 8 ou 9% des gens qui croient dans le politique. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, plus rien ne peut passer. À partir du moment où tu es plus audible, peu importe de droite comme de gauche. Donc on a aussi notre quote-part de job. Et moi, je parle beaucoup aux salariés, mes collaborateurs, pour leur expliquer vers quoi il faut tendre.
Si tu parles de capitalisation, tu vas avoir immédiatement les syndicats qui vont tomber dessus. Les syndicats dont on rappellera qu'ils ne concernent que 10% des salariés. Le taux de syndicalisation est bas. 8% dans le privé. Et pourtant, c'est ces gens-là qui, en mettant dans la rue toutes sortes de clampins, y compris des gens qui travaillent même pas, mais c'est pas grave, CGT et compagnie, ils vous bloquent le pays et les politiques obéissent.
Il n'y a pas d'autre choix que d'aller de l'avant dans cette direction-là, sinon c'est mort et fini. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans cette direction. On verra quelle tournure ça prendra, mais il n'y a pas d'autre choix. Mais le sujet clé, vraiment absolu, c'est l'augmentation des salaires.
Bien sûr.
Et je vais vous dire un truc qui peut parfois choquer certains, même dirigeants de grosses entreprises. Moi, je demande une fiscalité très simple. vous pouvez m'enlever toutes les aides qui existent aux entreprises, qui a toujours le sujet des aides. Mais toutes, vous me les enlevez toutes. Par contre, vous faites une fiscalité cohérente.
Exactement.
Vous faites une fiscalité avec moitié moins de coût du travail. Après, je m'occupe de mes affaires, des finances, je me démerde, j'ai des hauts, des bas, je me débrouille, je prends mes crédits, c'est ma vie. Virez-moi tout, je m'en fous. Tout ce qui existe, moi, j'en profite pas. Mais tout ce que vous voulez, les CIR, les CICE, les machins, je m'en fous.
Par contre, une fiscalité
cohérente, clair, qui permet d'augmenter ses salariés, parce qu'on oublie quelque chose, si on ne peut pas les augmenter, c'est notre productivité qui baisse.
Bah, bien sûr.
Et ils ont besoin de gagner leur vie. Et je vous le dis, et vous le savez, vous en parlez tous les jours sur votre plateau, la paupérisation, elle est réelle. Et je termine par un point. Et encore une fois, je veux pas que ça soit choquant. Vous parliez de l'écart riche-pauvre. Les riches, c'est quand même un pays de rente. On n'est pas vraiment un pays d'entrepreneurs, je crois qu'on le voit. Et d'ailleurs, tous les jeunes qui ont envie de créer, ils déménagent et ils partent vivre ailleurs. D'accord ? On est un pays de rente. Moi, taxer un peu plus le capital, la rente, j'ai aucun problème. Nettement moins le travail et ceux qui créent. Moi, je suis pour un statut qui fait que n'importe quel jeune qui entreprenne en France, aucune charge sociale sur le premier, voire les deux premiers salariés pendant 2 ans. Il faut montrer
qu'on est
un pays qui veut engager et motiver les entrepreneurs, ceux qui créent et qui font. Et à partir de ce moment-là, on ira déjà nettement mieux.
Eh bien, on va continuer la discussion parce que ça fait réagir au fond de 16 avec François, qui est retraité, qui est du côté de la Gironde. On sera avec Florian, l'ami viticulteur dans la Marne. Ils veulent en discuter avec nous, le coût du travail aujourd'hui, comment est-ce qu'on rapproche le brut du net. Il faut justement se désengager de la protection. C'est ce que disait le patron du MEDEF ce matin, ce n'est pas aux entreprises de payer la protection sociale. Il faut au contraire libérer du pouvoir d'achat des salariés et qu'eux-mêmes se prennent davantage en main. Discussion qui continue au 32-16, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3,
4. Ça vous fait réagir ce qu'a dit Patrick Martin, le patron du MEDEF ce matin, mais au-delà, c'est notre discussion, bien sûr, avec les GG qui nous fait réagir, avec Jean-Philippe Cartier, chef d'entreprise, investisseur, et son mouvement, le pouvoir de l'action. On parle du pouvoir d'achat, de ce que l'on peut faire pour essayer de réduire le brut et le net. François, merci d'avoir patienté. François, vous êtes avec nous, retraité en Gironde. Bonjour.
Bonjour les GG.
Qu'est-ce que vous en dites, François, alors, aujourd'hui? Que faut-il faire, vous-même? Qu'est-ce que vous en pensez?
Que faut-il faire? Moi, j'ai connu, quand j'ai commencé à travailler en 1985, sur les fiches de paie, la CSG, la CRDS, ça n'existait pas. Et surtout, ça devait être provisoire au départ. Ouais. Déjà commencer peut-être par diminuer la CSG et la CRDS, ça redonnerait du pouvoir d'achat aux salariés, c'est neutre pour l'entreprise. Et d'autant plus qu'il y a une partie qui est non déductible des impôts, c'est-à-dire qu'on paye des impôts sur de l'argent qu'on ne gagne pas. Donc déjà commencer par baisser la CSG déjà, et puis pour pas arriver au fil des années, l'annuler complètement. Ça relance le pouvoir d'achat, ça relance de l'économie. Pour les entreprises, c'est neutre. Mais si on continue comme ça, taxer en permanence, effectivement, on arrive.
Oui, mais vous savez, vous avez entendu, François, vous êtes suffisamment à l'écoute des GG aussi, du monde politique, pour entendre que ces prélèvements, cette redistribution sociale, on appelle ça le salaire différé. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais quand vous allez à l'école, quand vous allez à l'hôpital, quand vous avez besoin des services publics, ils sont là. Et ces prélèvements, aujourd'hui, c'est du salaire différé. Vous sortez votre carte vitale, ouais, et vous n'avez rien à payer, ou très peu, quoi.
Une question, Alain. Est-ce que ça marche mieux pour autant?
On peut pas dire que ça fonctionne correctement en ce moment. Vous avez raison, François. Mais globalement, ça va.
Vous savez, c'est comme les taxes écologiques qu'on met tous les ans de plus en plus. Mmh. Est-ce que le climat s'arrange pour autant? Voilà. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il y a une remise en question. De toute façon, une remise en question, ils ne feront jamais, nos politiques, parce qu'ils ont pas ils sont dans un autre monde. Ce qu'on vit, nous, tous les jours, ils ne vivent pas.
Alors, François, si vous le permettez, je voudrais qu'on écoute.
C'est le pays de la taxe, c'est du pays de toujours plus de la même chose. Voilà, et ça fait 25 ans que ça dure.
On a Florian, notre ami viticulteur dans la Marne. Bonjour Florian.
Salut GG.
Bonjour, bienvenue Florian. Qu'est-ce que tu en dis? Comment est-ce qu'on peut rapprocher le brut du net alors?
Alors moi c'est marrant parce que j'étais un peu sur l'opinion inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui tout le monde profite des soins pris en charge par l'État. Et pourtant, il n'y a que les salariés qui cotisent. Et donc, moi, mon idée, ce serait plutôt de lever la CSG, faire une CSG sociale, donc élargir complètement l'assiette, et par contre, supprimer les cotisations santé sur le travail. Et en fait, on augmente l'assiette, on réduit la pression, Et par contre, du coup, tout le monde, tous les revenus participent. Les salaires, les revenus du capital, les revenus immobiliers, les pensions de retraite. Et par contre, ce qui est impératif, c'est aussi de baisser la dépense publique de l'autre côté pour pas augmenter.
Voilà. Ça, c'est le corollaire. Ça,
voilà, c'est bah, de toute façon, c'est la principale chose, parce que sinon, on fait que du.
Alors, d'accord avec Florian ou pas?
Alors, augmenter toute forme d'impôts, 100% désaccord. À commencer par la CSG et la RDS. Je rappelle qu'ils sont des impôts qui devaient durer quelques années, qui étaient déjà des erreurs du passé, ce qui s'appelait le remboursement de la dette sociale, et qui pompent, pour rappel, à peu près 9,5% du salaire brut. Donc, c'est colossal. Donc, oui, là où je vous suis, j'avais soumis, on travaille sur un projet un peu dans l'idée, je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'avait fait Nicolas Hulot sur l'écologie. Nous, on essaie de travailler sur 10-12 mesures hyper efficaces avec des entrepreneurs, des salariés impliqués, même des fonctionnaires, sur une vraie réflexion de fond pour pouvoir augmenter les salaires. Et sur ce qui est de la CSG, notre constat en essayant de faire des calculs, parce qu'on a tellement, on est tellement picousé à la dépense publique que les calculs sont quand même assez complexes à faire en France pour arriver à un équilibre zéro. Et on voit encore les chiffres de la dette qui grimpent tous les jours. C'est pire d'année en année. Et nous, l'idée, c'était vraiment de se poser la question de la supprimer sur ceux qui ne sont pas responsables de cette dette du passé, à savoir déjà les moins de 30 ans, qui ont un vrai besoin de coup de pouce, un vrai besoin.
Est-ce que tu leur donnes le chômage aux moins de 30 ans ou pas?
Je considère que, je sais pas si vous le savez, mais le salaire moyen d'un moins de 30 ans en France, c'est 24 000 euros bruts. D'accord? Donc, demain, si on enlève la CSG-RDS, j'arrondis un peu, pardonnez-moi, c'est grosso merdo, 2400 euros bruts en plus. C'est de l'argent, 2400 euros bruts par an. Ça peut, encore une fois, permettre d'économiser, de prendre un premier loyer, d'acheter un début de voiture, peu importe, en tous les cas, c'est de l'argent. En revanche, moi, je suis pour le fait de remettre plus rapidement les jeunes au travail. On a trop de complexité à recruter, c'est trop long, et je trouve que 18 mois, moins de 30 ans, moi, je n'ai jamais été une journée au chômage de ma vie, et je suis autodidacte, et j'ai arrêté niveau bac, donc je suis pas surdiplômé.
Donc, pas de chômage pour les moins de 30 ans.
Je n'ai pas dit ça, ouais. Je n'ai pas du tout dit pas de chômage. J'ai dit qu'entre 18 mois et zéro, il y avait un curseur qui pouvait être réglé. Et ouais. Par contre, où je vous suis, monsieur, c'est que par contre, sur ce qui est l'argent du capital et autres, je suis sur les transactions financières et autres, alors que nous sommes un pays en grande partie aussi de rente, je suis tout à fait d'accord que baissons le coût du travail, augmentons les salaires et forçons un petit peu, si besoin, la taxation sur ce qui est du capital. Mais n'oubliez pas un paramètre, et pardon d'insister, mais il y a pas mal d'entreprises dans lesquelles j'ai investi ou que j'ai créé, le problème qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une concurrence fiscale hyper agressive.
Ben oui,
c'est-à-dire que des gens qui habitent à Nice partent à Milan pour gagner 100 000, 200 000, 300 000 d'impôts. Des gens qui habitent à Lille, et j'en connais, qui sont très riches et qui ont des familles très fortunées, font la fête à Lille et prennent un taxi et rentrent vivre en Belgique. Donc l'Europe, formidable, on est tous frères, on est tous cousins, on se tire une guerre fiscale colossal. Il faut pas l'oublier, parce que mon papa disait, quand les gros poissons maigrissent, les petits poissons crèvent. Donc il faut faire attention à pas faire perdre, pas faire partir tous ceux qui poussent et qui tirent aussi notre économie. Et très modestement, j'en fais partie.
Mais Florian, là,
je d'harmonisation fiscale dans
l'Union
européen.
Ah mais 100% clair, d'accord.
Hein, et le capital en a besoin, donc il faut pas non plus le taxer de trop. Mais en tout cas, enfin, je pense que c'est pas juste aux travailleurs et aux salariés de payer pour au moins pour la santé, en tout cas.
Je suis 100% d'accord avec vous, hein, là-dessus, on est totalement aligné. Moi, je pars du principe qu'il manque 20% en moyenne
dans
les salaires. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit, que ça part d'une femme de ménage, ça part d'un manager, ça part d'un directeur de site. Tout le monde, il manque à peu près 20%. Et alors, après, je parle pas des salaires à 7, 8, 10 000 et plus. En tous les cas, sur des salaires qui vont jusqu'à 3 000 à 4 000 bruts, j'insiste sur ces sommes-là, je pense qu'il manque à peu près 20% dans la poche de tous les Français qui écoutent et qui travaillent.
Florian, à bientôt dans les GG. Florian, merci d'avoir été des nôtres. Et on s'était promis de faire les vendanges des GG un jour dans la Marne. Peut-être qu'on tiendra cette promesse.
Je vais chercher du monde.
Merci Florian d'avoir été avec nous. À bientôt. On va finir avec David. David qui est du côté. Bah, lui aussi, il est de la Marne. Chef d'entreprise artisan. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Parce que vous faites vos calculs sur les salaires quand vous donnez quand vous payez votre salarié, vous regardez combien ça vous coûte, quoi, tout. Alors simplement.
Moi, j'ai une fiche de paye sous les yeux d'un de mes gars, chef d'équipe. Aujourd'hui, je lui ai donné 3228 euros net et ça a coûté à l'entreprise 6600 euros.
C'est QFD, voilà.
Alors, 6600 euros, il faut que je dise que nous, dans le bâtiment, on paye tous les mois. Pour une partie, hein, pour la caisse des congés payés. Mais même si je paye 600 balles de tous les mois pour ce salarié-là, ça me coûte 6 000 euros. Voilà. Et j'ai donné, le gars, lui, il a touché 3 200 euros.
Et il fait la gueule. Enfin, il fait la gueule 3200 euros.
Non,
c'est un bon salaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire la gueule en se disant je pourrais gagner plus encore, quoi. C'est ça, David.
Ben, c'est ce que vous voulez dire. Si on peut abaisser, moi, je préférais lui donner 4200 et payer 1000 balles de charge en moins.
Mais c'est quand même dingue, en fait, la situation dans laquelle on se retrouve quand on vous écoute David et quand on t'écoute Jean-Philippe. Les patrons veulent augmenter les salaires. Les salariés veulent gagner plus. Mais au milieu, tu as des syndicats qui entretiennent la défiance entre le salarié et le patron. Moi, je suis pas anti-syndicat. Moi, je suis pour qu'ils soient des gardes de fous pour la dignité du travailleur, oui. Mais aujourd'hui, les syndicats, pour certains, sont des partis politiques, en fait.
Exactement.
Et le fait d'entretenir la défiance entre le salarié et le chef d'entreprise, c'est devenu un business syndicaliste. Les patrons veulent payer, ils veulent donner des gros salaires, ils ne veulent pas être taxés.
Abel,
c'est tout.
Je pense que monsieur se reconnaîtra, mais quand tu es dirigeant de PME, on est tous le patron de notre propre syndicat. On se parle tous toute la journée. Enfin, les PME, on communique tous entre nous. Là, on parle de plus grosses entreprises. Mais là, à ce stade, c'est même pas les syndicats. Encore une fois, on en revient à la vision, on en revient au projet. C'est-à-dire un État qui laisse... J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est une obligation. Un État qui met 10 millions de gens, plus ou moins, dans un régime de quasi-pauvreté, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et je prends, encore une fois, un dernier exemple. Moi, j'ai une femme de ménage que je paye... je parle dans un des hôtels, je prends cet exemple. Elle gagnait 1400 ou 1500 euros là où elle était. Moi, je l'ai montée à 1800 euros pour 35 heures en faisant le ménage. Elle ne peut pas s'en sortir avec ce salaire-là. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne peux pas la payer plus. Et après, elle va s'occuper d'un enfant qu'elle garde à côté de la ville dont on citait, à côté de Nice. Et elle revient chez elle à 21h. Ça joue surtout sur son fils qu'elle voit pas, sur l'éducation. Donc, il faut payer correctement les gens. Et il faut faire des coupes. Et il faut du courage. Je sais pas si on se fait élire, mais les gens doivent l'entendre, parce que les gens l'ont tous compris quelque part. Et on l'entend sur votre antenne tous les jours.
Jean-Philippe et Abel ont souligné, mais sans vraiment appuyer sur ce point, mais nous vivons dans un pays dans lequel... l'inconscient collectif est nourri d'anticapitalisme.
Oui.
Voilà. Il y a même des Français qui pensent qu'ils sont pas anticapitalistes, mais en fait ils le sont parce qu'il y a cette espèce de méfiance.
Et déjà ils n'aiment pas la réussite des autres.
Le patron est un sanguinaire qui ne rêve que d'une chose, c'est de te faire saigner. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois des syndicats qui sont des syndicats devenus hyper radicaux. Moi, je suis désolée, quand tu as des députés LFI aujourd'hui qui ont des stickers sur leur ordinateur et qui s'en vendent, dans lequel il y a écrit « Mangeons les patrons », je veux dire, c'est des...
Alors, je rappelle juste une chose, chose fondamentale. Moins de 10 millions, mais plus ou moins 10 millions de salariés en France, ils travaillent dans des PME.
Oui, oui.
Donc moi, j'appelle le mot patron autrement. D'ailleurs, sur toutes les antennes, je le fais appeler. Nous sommes des créateurs d'emplois. Avant d'être des patrons, nous sommes des créateurs d'emplois.
On est dans un des rares pays d'Europe où on peut avoir, à la présidentielle, deux candidats anticapitalistes. On peut avoir du Poutou et du Arthaud et du Anas Kazib qui se présentent.
Et Jean-Luc Mélenchon.
Oui, on ne parle même pas de lui. Non, mais lui, il est au-delà, parce que lui, il coche toutes les cases du communautarisme.
Mais il ne vit pas comme un anticapitaliste.
Mais dans quel pays on vit où on a autant de candidats anticapitalistes, radicaux, haineux du travail, et tout le monde trouve ça normal? Excusez-moi, déjà ça montre que
David,
l'inconscient collectif, il a
quelque
anesthésié.
Chose, pardon.
Alors je voudrais ajouter, par exemple, j'en ai un autre là de bulletin de salaire, d'un autre de méga. Lui, il a touché 2480 euros et ça m'a coûté 4900. Et je voudrais dire aussi que je viens de licencier un de mes gars parce qu'il a été reconnu par la médecine du travail inapte et donc chez moi non reclassable. Ça m'a coûté 41 900 euros. Je dis bien 41 900 euros. Et aujourd'hui, il travaille. Il a retrouvé du travail et il fait le métier que il aurait pu faire chez moi.
Grand classique.
C'est une honte,
C'est un scandale. C'est un scandale.
Et vous auriez eu la complicité du tribunal de commerce, des prud'hommes, des syndicats qui seraient venus vous casser la tête dans votre entreprise. Donc c'est ça le problème. On empêche les gens de travailler, on les culpabilise et on diabolise.
Le débat ne fait que commencer à l'aune de l'élection présidentielle, mais pour ça, il faudra du courage. Mais dans un instant, on va continuer de parler de la fiscalité avec Pierre Chasseret. Vous savez, 40 millions d'automobilistes, et ce livre coup de gueule, balance ton plein. On paye trois fois, dit-il, aujourd'hui. On est champion de la triple peine. Une fois en achetant son véhicule, deuxième fois avec les impôts, et troisième fois dès qu'on fait notre plein. Balance ton plein, coup de gueule à venir.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.